Dieu.
Amen.
C'est bon. Merci les musiciens. Dieu vous bénisse. Merci.
Voilà, Jésus.
Commence à faire chaud, hein? C'est le printemps. On est content aujourd'hui de recevoir notre sœur Chantal et notre frère Yannick pour la première fois dans notre communauté. Que Dieu vous bénisse. Oui. Les prédications depuis longtemps et ils m'ont demandé aujourd'hui que nous puissions bénir leur union de façon éternelle. Alors nous allons après le culte faire cette petite cérémonie toute simple mais qui a une portée éternelle. Amen.
Amen.
Que Dieu les bénisse pour leur foi et leur amour pour nous. Que Dieu soit glorifié. Ce matin, mes frères et sœurs, je voudrais vous parler au sujet de l'esprit et de l'âme, parce que des fois on mélange. Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées » et très souvent les gens prennent leurs pensées pour la pensée de Dieu. Et il y a un ordre établi par Dieu dans les choses spirituelles et c'est de ça dont je voudrais vous parler, afin qu'on ne s'égare pas dans des vaines pensées. L'esprit d'une personne, c'est cette personne. Vous n'êtes rien d'autre qu'un esprit. Vous êtes dans un corps de chair, ce qui fait de vous un être vivant, c'est-à-dire une âme. Et voilà, mais tout ça c'est tellement bien mélangé que l'âme, l'esprit, on arrive difficilement à faire la différence. Et pour faire la différence, il y a de l'ordre. Il faut être en ordre. Si on n'est pas en ordre, alors on peut être trompé. On peut être trompé par... la chair, c'est pas forcément le diable qui va venir vous tromper, ou les démons, mais c'est la chair. Et les gens qui persistent à être trompés dans la chair, ben finalement, ils peuvent aussi tomber sous la coupe du diable, c'est un fait, c'est vrai. Donc il nous faut faire attention, et ce qu'il faut c'est être en ordre avec Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire être en ordre avec Dieu? On va développer un peu ça ce matin, ça vous plaît?
Oui.
Que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse sa parole. Et que chacun de vous puisse prendre quelque chose, ne serait-ce qu'une phrase. Des fois, il y a juste une phrase dans une prédication. Hein. Je ne me fais pas d'illusions. Donc, l'esprit de vous-même, c'est vous-même. Je parle ici à des enfants de Dieu. Je parle ici à des enfants de Dieu. Je ne parle pas ici de l'esprit des irrégénérés. Je ne parle pas ici de l'esprit des inconvertis, des gens... qui sont, comme dit l'apôtre Paul, encore dans le règne animal. C'est tout autre chose. Alors voilà, ce qui doit être clair pour vous qui êtes nés de nouveau, je vais vous l'expliquer. Votre esprit ne devient actif que quand vous connaissez sa présence et ses possibilités. Si vous ne reconnaissez pas votre esprit, si vous le confondez avec l'être que vous êtes, avec votre âme, si vous confondez votre esprit avec votre âme, vous êtes dans la confusion. Et c'est le grand problème, surtout dans les milieux charismatiques, parce que beaucoup de gens ont une imagination très fertile et ils se croient spirituels alors qu'ils sont charnels. Leurs pensées ne sont pas les pensées de Dieu, même si elles parlent de Dieu. Même si elles ont l'air spirituelles, elles ne le sont pas parce qu'ils parlent alors que Dieu n'a rien dit. Mais ils s'imaginent que Dieu a dit. Oh, ça devient grave, là. On connaît les conséquences de ce que ça peut avoir, n'est-ce pas, nous autres, ici, dans notre communauté. En Jésus-Christ, vous, l'Esprit qui est vous, possède tout pleinement en Jésus-Christ, hein, je dis bien. Mais vous pouvez posséder tout pleinement toutes les richesses divines si vous ne les reconnaissez pas et si vous ne les utilisez pas, elles n'ont pas plus de valeur qu'un billet de 500 balles que vous auriez oublié dans votre tiroir. Ça ne sert à rien du tout. À rien. Pourtant, vous l'avez, mais ça ne sert à rien. La seule et unique condition du vrai pouvoir spirituel, c'est son identification. Et c'est son utilisation. Tout le reste, c'est rêverie. En fait, toutes les grandes choses arrivent grâce à leur identification. Écoutez-moi bien, la pensée, votre pensée, c'est le messager de ce pouvoir, mais c'est aussi le messager de votre âme, et c'est ça le problème. C'est pourquoi nous devons avoir la foi, mais, nous pouvons, mais la foi, c'est pas... La foi, elle rend l'eau solide. C'est-à-dire que la foi, c'est pas un truc vague, pas du tout. La foi, c'est quelque chose qui est solide, puisque c'est basé sur quelque chose qui est solide, la parole de Dieu. Si vous êtes conforme aux Écritures, du moins, si vous êtes conforme à ce que vous comprenez les Écritures, alors à ce moment-là, vous reconnaissez l'esprit, votre esprit, et vous ne le mélangez pas avec votre âme. C'est ça être intègre. Être intègre, le mot intègre, ça signifie être entier. Vous pouvez être entier. Si vous êtes entier, même si vous ne connaissez pas toutes les doctrines, même si vous n'êtes pas d'accord avec toutes mes doctrines, ça n'a pas d'importance. Si, du moins, vous, vous êtes entier, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de tricher quelque part. C'est ça qui est important. Ce messager, votre pensée, moule constamment les réalités du monde invisible. Ça les moule. Par notre foi, on fait sortir du néant les choses qui n'existent pas encore. Elles existent dans le monde de l'esprit, mais c'est par notre foi qu'on les fait sortir. Notre foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si votre foi ne vient pas de la parole de Dieu, mais de vos pensées religieuses, vous coûterez à la catastrophe. Tout s'opère par la pensée. Croyez-vous que ceux qui inventent, qui ont inventé l'ordinateur ou que sais-je, n'importe quoi, est-ce que vous pensez qu'ils ont la foi en Jésus? Non, pas forcément. Mais ils ont pensé quelque chose, ils y ont réfléchi, ils ont analysé, ils ont fait, et tout ça c'est sorti, c'est venu à la réalité parce qu'ils avaient foi dans ce qu'ils croyaient. Mais ça n'avait rien à voir avec Dieu. Maintenant, si nous voulons être spirituels, c'est-à-dire agréables à Dieu, unis à Dieu, conformité avec Dieu, eh bien, nous allons sortir, nous aussi, des choses qui sont dans l'invisible, les rendre visibles, mais de façon à ce que ça soit bien pour vous, bien pour les autres, et pour la gloire de Dieu, magnifique. Par notre foi, nous faisons sortir donc du néant ce qui n'existe pas encore. Et c'est par la pensée que tout ça opère, je le répète. Pensée, par exemple, dans ces écrits dans psaume 31,16, voilà, la femme vertueuse, elle pense à un champ et puis elle l'acquiert. Comment voulez-vous acquérir une chose à laquelle vous ne pensez pas? Hein? Vous me direz que c'est une vérité à la palisse, oui, mais oui. Vous voyez, ils ne sont même pas encore là. En effet, comment pourriez-vous obtenir par la foi une chose à laquelle vous ne pensez pas? Donc, ça passe par la pensée. Voyez, mes frères et sœurs, penser, c'est la véritable activité de la vie. Le résultat de la pensée, c'est ça. Ce qui fait que vous allez avoir un avenir, ou pas. Intéressant, ou pas. Nul, ou pas. Alors, à quoi pensez-vous? Et comment pensez-vous? Est-ce que vous avez des filtres dans votre pensée pour dire non, ça je ne pense pas. Ça je refuse. C'est des pensées, non je ne veux pas. À tout moment, vous avez affaire au pouvoir de la pensée et de la conscience. C'est notre conscience aussi qui nous dirige parce qu'elle fait la différence entre le bien et le mal. Des fois, c'est très difficile de faire la différence entre le bien et le mal. Ce n'est pas toujours facile. Alors, quel résultat pouvez-vous espérer si vous demeurez inconscient du pouvoir qui a été placé sous votre autorité? Tant que vous ne prenez pas conscience de ce pouvoir, vous vous limitez aux conditions, je dirais, superficielles, et vous allez être simplement l'esclave de ceux qui pensent. Ça peut être un gourou, ça peut être un homme politique, une femme politique. ça peut être un banquier, ça peut être n'importe qui. Les gens qui pensent sont les maîtres, même s'ils pensent sans Dieu, parce que c'est un pouvoir, la pensée. Mais nous avons une supériorité, parce que si nous pensons selon Dieu, si nous trouvons la pensée de Dieu, nous sommes vainqueurs, et même plus que vainqueurs. C'est plus une question d'avoir fait des études, c'est une question d'être en communion avec Dieu, d'une façon pratique, pas... Ça, c'est du sentimentalisme infantile. C'est pas ça que nous voulons. Être en communion avec Dieu, c'est pas ressentir un frisson, ressentir la présence de Dieu. Non, ce qu'il faut être, c'est conscient de ce que vous êtes et de ce que vous avez reçu. Et être en ordre avec ce qui est dit dans ce livre, à ce moment-là, la voie s'ouvre. Comment diriger le monde? Par des gens qui pensent. Les gens qui pensent, ils savent que si vous n'êtes pas disposé à penser, alors vous allez devoir travailler dur. Et ils savent que plus vous travaillez dur, moins vous avez de temps et de possibilités de penser. Alors ils vous donnent du boulot et des distractions pour vous changer les idées, afin que vous ne pensiez pas.
Moi, je vais voter pour un tel parce qu'il est toujours bien habillé. Je vais penser pour un tel parce qu'il est un socialiste. Dans le mot socialiste, il y a le mot social.
Des gens, je connais des pasteurs qui pensent comme ça. Je ne veux pas dire des noms parce que je suis gentil. Mais c'est vrai. Vous voulez que je dise des noms? Non, je ne dirais pas. Ils savent que si ils vous tiennent de façon à ce que vous ne puissiez pas penser, eh bien, ils sont vos maîtres. Et c'est ainsi qu'une minorité de gens manipule la masse populaire totalement, complètement. De temps en temps, il leur donne la possibilité de manifester. Entre la Bastille et la République, et puis ils sont tout contents. Ils ne sont même pas en colère, vous les voyez défiler, ils ne sont même pas en colère.
Ils sont bien à la télé.
Prudit. Jésus dit, la vérité vous rendra libre. Oui, mais c'est quoi la vérité? Et ça y en revient à ça. C'est quoi la vérité? Jésus est la vérité, or... Dieu est esprit, et c'est par l'esprit et non pas par la chair que nous atteignons le trône de Dieu, c'est-à-dire la gouvernance. Pas par la chair. La chair, on doit la maintenir dessous. Par l'esprit, pas par la chair. L'esprit doit pouvoir prendre contrôle de vos pensées. Comment se fait-il que des chrétiens n'aient que si peu de pouvoir dans leur propre vie? C'est parce que le secret du pouvoir, c'est la compréhension parfaite des principes, des forces, des méthodes, des combinaisons de l'esprit créateur, de l'esprit de Dieu. Il faut avoir cette compréhension. L'Esprit de Dieu, il a des principes. Nous sommes créés à son image, lui ou non? Vous n'avez pas de principe, vous? Ben lui, il en a. Et nous sommes créés à son image, voilà pourquoi nous avons des principes. Mais ces principes ne sont pas forcément les nôtres. Donc il faut changer nos principes pour ses principes. Alors, Dieu, l'Esprit de Dieu a des principes. Il a une puissance, il a des méthodes, et il déteste le désordre. Les Suisses. Si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, vous pensez et vous agissez au petit bonheur la chance, sans règle, et vous dites que c'est par la foi. C'est faux, c'est pas vrai, c'est pas par la foi. C'est par insouciance, inconscience, par bêtise, par la foi. Ça veut dire, je sais pas, c'est quelque chose d'idiot. Je me rappelle toujours qu'Amélia, la vieille gitane, j'avais dit, Camélia, moi je veux faire comme toi, je veux vivre par la foi. Elle me dit, pour vivre par la foi, il faut avoir la foi. Je dis, j'ai la foi, elle me dit, c'est vrai, c'est sûr, mais tu connais personne. J'avais compris. Vivre par la foi, sans connaître personne, c'est pas possible. C'est une nouillerie. C'est comme ceux qui disent, il va y avoir un grand réveil, le Seigneur va envoyer des milliers de gens au portail, on les attend assis sur notre canapé. C'est une nouillerie, c'est pas la foi, c'est de l'imbécilité. Parce que la Bible dit clairement que comment sauront-ils si personne ne va leur dire? Vous voyez? La foi ne nous fait pas faire des choses bêtes. Jamais. Jamais. La vie éternelle, Jésus dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Ne pas connaître Dieu, ne pas connaître l'esprit, la vie, c'est marcher dans les ténèbres, c'est tâtonner dans les ténèbres. Alors, on ne peut pas s'imaginer qu'on connaît Dieu parce qu'on avait sa main dans une réunion, parce qu'on était trempé dans l'eau, et parce qu'on lit la Bible un quart d'heure par jour. Non. Moi, je me suis marié en 1974, eh bien, j'apprends encore à connaître ma femme. Dieu, c'est infini. Je connais Dieu, mais quel orgueil! Mais au moins, on peut faire des progrès dans cette connaissance. Hier, j'étais dans un supermarché pour acheter un petit truc qui me manquait. Et puis, je passe dans le rayon des parfums, tout ça. Et j'ai vu l'eau Saint-Michel. Ça existe encore, l'eau Saint-Michel. Mais quelle horreur! C'est vraiment quelque chose qui me dégoûte à un point. Jamais, si je veux offrir un parfum à ma femme, je sais en tout cas qu'il ne faut pas que je l'offre l'eau Saint-Michel. Parce que c'est... Mais il y en a qui aiment, hein, il y a pour tous les goûts. Moi, je déteste ça. Ma femme aussi, je sais qu'elle n'aime pas, donc je n'offrirai jamais ça. Elle aime des choses qui sont... C'est pas parce que c'est plus cher, mais ça sent meilleur les choses qu'elle aime. Mais c'est vrai que c'est plus cher aussi. Mais il faut donner, je dois donner à ma femme ce qu'elle aime. Ben, avec Dieu, c'est la même chose. Si vous ne lui donnez pas ce qu'il aime, mais votre sacrifice, mais c'est... Tu dois lui donner ce qu'il aime, lui. Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait une boulette. Il n'a pas donné à Dieu ce qu'il aimait. Eh bien, beaucoup de chrétiens s'imaginent, pensent qu'on n'a pas à penser qu'on doit savoir, on doit connaître. C'est une science. Connaître Dieu, c'est une science. Moi, avant d'être papa, je ne savais pas ce que c'était être papa. Et j'ai appris par dans les bouquins, mais avec Mélodie. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, bien sûr, il y a des bouquins qui nous aident, c'est super, mais ce n'est pas dans les bouquins qu'on apprend à être papa, c'est pas vrai. C'est dans la vie, c'est dans l'expérience. Ce principe, il est immuable. Si ce principe n'était pas immuable, ben ça ne serait pas fiable. Dans le mot fiable, il y a le mot fi, qui a donné foi en grec. Si les règles, les principes de Dieu n'étaient pas fiables, on ne pourrait pas avoir la foi. Si Dieu n'était pas un Dieu d'ordre, de règles, de principes, d'ordonnances, de principes, il ne serait pas fiable. On ne pourrait pas avoir confiance en lui, parce que ça serait, comme dit une chanson de Julien Clerc, un Dieu malhabile avec 10 mains, on ne sait pas comment, par quel bout prendre. Est-ce qu'aujourd'hui il est content, est-ce qu'il n'est pas content, on ne sait pas. Est-ce que c'est sa volonté, est-ce que ce n'est pas sa volonté, comment faire tout. Dieu nous dit que c'est ceux qui font la volonté de Dieu qui sont sauvés, mais si Dieu ne nous dit pas ce que c'est sa volonté, comment voulez-vous qu'on soit sauvés? Donc il doit nous le dire. Si on ne s'écoute pas, si on n'écoute pas, si on ne lit pas, si on n'écoute pas, si on n'a pas des moments avec notre esprit où on met notre pensée en communion avec l'esprit, eh bien on s'imagine. Et puis on chante la chanson de Lennon, j'imagine. Imagine. Dieu a dit, je ne change pas. Le riz, Uncle Ben, il ne coule jamais. Et Dieu, il ne change jamais. Donc il est fiable. Il ne changera pas, il est fiable, justement à cause de cela, que c'est des règles claires et nettes. Tous les principes de l'esprit sont immuables. Et c'est cette stabilité qui est notre chance. Je reviens encore à mon cancer, cette saleté qui a essayé de m'avoir. Alors, quand vous êtes sur le point de crever misérablement, et puis ça fait mal en plus, et puis voilà, alors vous avez deux possibilités. La première, c'est quoi ce cancer? Google. Oh, mon Dieu! Et ça fait quoi? Des semences pourries qui rentrent en vous. L'autre possibilité, T.L. Osborne. La parole de Dieu dans sa plus grande pureté au sujet de la guérison en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai choisi? Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous mettez dans votre pensée? Vous voyez, frères et sœurs? Ouais, mais... Si Jésus était en face de vous, qu'est-ce qu'il vous dirait? Les mêmes choses que Osborne vous dit dans ses livres. C'est dur, mais Jésus n'a jamais dit que c'était mou. C'est vrai que c'est roi, mais c'est ce qu'il nous faut. Il ne change pas, il est fiable. Ici-bas, ces enfants sont les attributs de Dieu, les attributs actifs de Dieu, ou pas. Alors, vous êtes son canal d'activité, il vit en vous pour agir par vous, mais jamais dans des ordres. Jamais. Oh, mes frères et sœurs, si seulement les croyants comprenaient, commençaient à percevoir que l'essence de l'univers est en eux, ils commenceraient à sentir leur pouvoir même. Si ils percevaient que l'Esprit de Dieu vit en eux avec tous ses pouvoirs, cette perception mettrait le feu à leur imagination et ça allumerait la torche de toute leur inspiration et la face du monde serait changée. Ça donnerait de la vitalité à leur pensée. Cela leur permettrait de se relier à toute la puissance des bons anges de Dieu, à toutes ces puissances invisibles, mais bien réelles, qui attendent une chose, c'est qu'on se mette en harmonie. Qui attendent votre prise de conscience de qui vous êtes en Jésus-Christ. Et c'est ce pouvoir en vous qui vous permettrait de dresser des plans courageux, c'est ce pouvoir en vous qui vous permettrait d'exécuter des plans impérieux, un mot que les gens n'aiment pas tellement, impérialisme. Seulement voilà, cette perception ne viendra que dans le silence. Et aujourd'hui, le diable fait tout pour que le silence n'existe plus. Autrefois, les gens chantonnaient. Maintenant, ils ne chantonnent plus. On met la radio, on met la télé, on met un casque. Plus de silence. Plus de silence. Les gens n'aiment pas le silence, c'est le diable qui fait ça. C'est la condition requise pour atteindre les grands buts. C'est de savoir se mettre dans le silence. Vous êtes une entité qui pouvait visualiser. L'imagination, c'est votre atelier. Mais vous ne pouvez pas... Attendez, moi j'étais ensemblier décorateur, mais le soir, quand on quittait l'atelier, il n'y avait pas un grain de poussière dans l'atelier. Il fallait tout balayer, tout nettoyer, ranger les outils, mettre tout impeccable, comme si on venait de créer l'atelier. Et pourtant, dans la journée, c'était du crin, c'était de la laine, c'était des bouts de fil, des clous, des agrafes, des machins, il y en avait partout. Et c'est comme ça dans l'imagination de beaucoup de gens. Il y a plein de choses, plein de chenilles, comme on dit en Suisse. En France, il y a un mot pire, mais ça commence par B, puis ça finit par L. Plein dans leur imagination, ça pète dans tous les sens. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de silence intérieur. Vous devez visualiser votre idéal dans un endroit paisible de votre cœur, dans l'ordre, dans le silence, dans le calme, et la confiance, c'est là que se trouvera ta force, c'est-à-dire ton pouvoir. N'est-ce pas écrit ? Bien sûr que c'est écrit. Vous voulez le verset ? Cherchez-le. Dans le calme et la confiance, c'est là que sera ta force. Mais qui croit ça ? Qui prend le temps pour l'ordre, le silence, le calme et la foi tranquille? Qui va entrer dans son atelier d'imagination paisible? Qui va faire de l'ordre dans son imagination? Qui va faire de l'ordre dans son sanctuaire intérieur? Qui va balayer les pensées de haine, de jalousie, de condamnation, de jugement, de critique, de moquerie, etc., etc.? Qui? Je ne juge pas, mais je constate, et si je vous le dis, surtout ne le répétez pas, et c'est juste pour que vous puissiez prier pour la personne. Bonne blague. Qui va commencer à exercer ça? Ça, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, ça lui suffirait juste ça. La sagesse divine, elle est infinie, mais pour entrer en contact avec la sagesse divine, il nous faut suivre la méthode qui nous permet de disposer de l'inspiration. Vous avez tous une voiture, si vous ne suivez pas le règlement, la méthode et tout, ben vous allez avoir un problème parce que... Voilà, attendez, c'est hier, je roulais tranquillement, tout d'un coup, ping, mon tableau de bord, la clé, votre clé, vous savez, c'est une clé comme ça, et quand j'approche de ma voiture, je touche la poignée, la voiture, elle s'ouvre. Je m'assieds, je ne mets pas la clé dans le contact, j'appuie sur un bouton, elle démarre. La pile de votre clé est bientôt usée. Ma voiture le sait, elle me le dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Seigneur Jésus, c'est merveilleux la technologie, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, tu as donné une intelligence extraordinaire aux hommes, c'est merveilleux. Bon, faut que j'y aille maintenant. Eh bien, je serai arrivé un jour sur un parking ou sur une route, je ne sais pas, et puis voilà, ma voiture ne démarre plus. Pourquoi? Parce que la pile de ma clé était foutue. Qu'est-ce que j'ai fait? Immédiatement, je suis allé acheter une pile. Il y en a trois qui suivent. Il faut faire ce qu'il faut faire. Si on ne fait pas ce qu'il faut faire, ça ne marche pas. Il faut faire ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, ce qui est écrit, c'est déjà la moindre des choses. Puis après, on verra. L'inspiration peut vous conduire à d'autres choses encore. Il nous faut suivre la méthode qui nous permet de disposer de l'inspiration. Et de cette inspiration que Dieu cherche à nous donner, en tout temps, il a toujours quelque chose à dire. C'est un peu comme le monsieur de chez Peugeot. A quelque chose à vous dire. Dieu a toujours quelque chose à nous dire, mais bon. Je vais vous dire une chose inouïe. Celui qui sait reconnaître le monde de l'esprit dans les personnes, dans les événements, dans les choses, dans les circonstances, celui-là, il a trouvé le royaume des cieux. Il a trouvé le royaume des cieux dont Jésus a dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous », c'est-à-dire au centre de vous-même, ou, on peut l'interpréter autrement, en vous-même, ou on peut l'interpréter autrement, au-dedans de vous-même, ou on peut l'interpréter autrement, je suis au milieu de vous. Alors, le problème, c'est que nos échecs résultent du fonctionnement de ce même principe. Parce que ce principe, il est immuable. Aucune déviation n'est possible. Si vous pensez au manque, si vous pensez aux limitations, si vous pensez à la discorde, eh bien vous découvrirez leurs fruits de tous les côtés. Si vous pensez pauvreté,
si vous pensez malheur, si vous pensez maladie, les messagers de la pensée vous offriront tout ça sur un plateau. C'est pourquoi Jésus a dit, il en sera fait selon votre foi. C'est-à-dire, ma foi peut m'attirer des mauvaises choses. Ah bon? Mais oui, mais c'est parce que Jésus n'a jamais dit, voilà, je suis moi, c'est moi que je suis Jésus, puis c'est moi que je t'ai guéri. Non, il dit, c'est ta foi qui t'a guéri. Mais c'est aussi ta foi qui t'a pris peut te rendre malade. C'est ta foi qui peut te donner les moyens, et c'est aussi ta foi qui peut te les enlever les moyens. Dieu n'a plus rien à voir là-dedans parce que c'est des lois, c'est des principes, c'est des ordonnances. Dieu a fait les choses de telle manière que c'est comme ça. Et comment elle s'appelle cette loi?
La pesanteur.
Ben, elle n'arrêtera jamais, la loi de la pesanteur. Dieu l'a créée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez être le meilleur chrétien du monde si vous montez au de gratte-ciel et que vous vous jetez en bas, vous pouvez avoir toute la foi du monde que vous voulez, vous vous écrabouillerez au fond. Parce que c'est une loi. Ah, vous croyez que vous avez la foi, que vous pouvez sauter en bas du gratte-ciel? Allez-y, on va bien rigoler. Faites des photos. Il y en a qui... Bon, je vais arrêter parce que c'est trop tellement... Allez regarder sur YouTube les imbécilités qui sont faites par certains chrétiens au nom de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que ça signifie, il en sera fait selon ta foi. C'est-à-dire, si tu crois une chose, mais il t'arrive. Je lui dis, ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. On entretient tout le temps des mauvaises pensées. Ah non, ça vous arrive. Si vous pensez avec malveillance, si vous pensez en ignorant les règles et les lois de Dieu, ben vous allez attirer des fruits de votre malveillance ou de votre ignorance. C'est pourquoi il faut s'instruire.
J'aime pas lire.
Ben crève. Disent. Dieu, dans son amour, a permis qu'on puisse avoir un livre, et tu viens me dire que tu n'aimes pas lire. Crève. Là, c'est Nicolas qui dit. Il dit, va mourir.
Michel, c'est pas l'amour.
Si, parce que en vous disant ça, ça vous secoue un petit peu, puis ça va vous pousser à dire que c'est vrai, après tout, il faudrait peut-être que je m'y mette. Voilà. Dieu vous a donné le pouvoir de penser. Or, le pouvoir de votre pensée, il est compris et correctement, s'il est compris et correctement utilisé, il représente le plus grand dispositif d'allègement de tous les fardeaux. S'il n'est pas correctement utilisé, ben, c'est les fardeaux qui se mettent sur vous. Ce n'est pas plus compliqué. Si vous l'utilisez mal, votre pensée, les résultats seront désastreux. C'est comme ça, il en sera fait sur votre foi. Ce pouvoir vous permet d'entreprendre avec foi ce qui vous semble impossible. Impossible. Parce que ce pouvoir, il constitue, le pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'esprit, le secret de toute inspiration. Mais je vous rappelle, de bonne inspiration comme de mauvaise inspiration, c'est à vous d'être clair, d'être en ordre. Alors, il faut savoir que être inspiré, c'est sortir des sentiers battus. Parce qu'une inspiration qui ne sort pas des sentiers battus, ce n'est pas une inspiration. C'est du rabâchage. On parlait l'autre jour, hier, avec le frère et la sœur Fortin, on parlait de ces prophéties qui sont données dans les églises. Mon petit troupeau, ne regarde ni à gauche ni à droite, je suis avec toi. Je suis le Seigneur Tout-Puissant qui t'aime et qui te bénit infiniment. Je n'ai pas besoin de prophéties comme ça, c'est écrit dans la Bible, je sais. Mais de la bêtise. C'est de la bêtise. Donc, être inspiré, c'est sortir des sentiers battus, c'est apporter quelque chose qui n'a pas encore été apporté. En effet, tous les résultats extraordinaires exigent des moyens extraordinaires. L'inspiration, c'est l'art d'assimiler, l'art d'adapter votre esprit, votre pensée à la pensée, à l'esprit du Seigneur. Et lui, il a des pensées bien plus élevées que vous, bien plus élevées que moi. Et il peut vous faire penser à des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé avant. Faut-il écouter? Et on ne peut pas écouter en écoutant
Si je chante, c'est pour toi, c'est pour toi.
On peut pas. Moi j'ai essayé, on peut pas.
C'est vrai ou c'est pas? Bien sûr que c'est vrai.
C'est là que beaucoup se trompent et prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu. Et c'est là parce qu'ils ne respectent pas l'ordre de Dieu, l'ordre du royaume. Pas assez de silence, pas assez d'humilité. Alors ça va dans tous les sens et c'est, des fois ça tombe juste. Des fois ça tombe juste parce que bon, il y a toujours hein, la loi de Pareto, comme on disait. Hein. Il faut la compréhension donc intellectuelle d'abord, c'est-à-dire le savoir. Le savoir qui vient de là. Savoir qui vient de la parole de Dieu, qui doit être bien comprise. Et puis, il nous faut une compréhension émotionnelle. Vous me direz, bon Michel, émotionnelle, que ça veut dire? Parce que la compréhension intellectuelle seule, elle ne suffit pas. Elle n'apporte aucune aide. C'est pourquoi beaucoup de théologiens qui connaissent bien intellectuellement toutes ces choses de la Bible ne connaissent pas le monde de l'esprit et les miracles. Parce que ça ne reste qu'intellectuel. Dieu nous a créé avec des émotions. Il faut maintenant les canaliser. C'est là où il y a des problèmes dans les milieux charismatiques, c'est qu'ils ne canalisent pas, ils se sentent poussés.
Je suis poussé.
Vous êtes sûr qu'ils me poussent ? Ça, c'est quelque chose. Je suis complètement étranger à tout ça. Je veux le rester. Il est nécessaire de mettre nos émotions en action. Je explique. La pensée sans sentiment, elle est froide. Il faut combiner le savoir et l'émotion. Il y a des gens qui marchent que par l'émotion. On en a connu, hein. Il y en a un qui disait...
J'imite bien, hein.
Mais c'est impossible que ça arrive pas. Avec tout ce qui est arrivé là, c'est impossible que ça arrive pas.
C'était de l'émotion. Ben, on a vu ce qui est arrivé, hein. Vos émotions. Qu'est-ce qu'il dit Jésus quand il dit « Croyez que vous l'avez reçu avant de le voir s'accomplir et vous le verrez s'accomplir. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que waouh, si je pouvais avoir 1000 euros, j'ai besoin de 1000 euros. Seigneur, je crois que tu me les donnes parce que tu as dit que tu pourras avoir à tous mes besoins. Oh Jésus, merci. Je crois que je les ai. J'imagine que je les ai. Ils sont dans ma poche, j'ai qu'à mettre la main dedans. Imaginez. Moi, rien que d'imaginer, je sens des frissons. Pas vous? 1000 euros. Si je crois que j'ai les 1000 euros, je suis content. Donc, j'ai une émotion. J'ai dirigé mes émotions vers une joie, vers une allégresse. Plutôt que de dire, Seigneur, j'ai besoin de 1000 euros. Seigneur, je sais pas comment tu vas faire pour me donner ces 1000 euros, mais vraiment, j'ai besoin. Seigneur, tu vois, vraiment, je suis dans quelle émotion là?
Stress.
Et je vais récolter quoi?
Stress.
Parce qu'on récolte toujours ce qu'on sait. C'est-à-dire que si je me mets dans une émotion, ah, Michel, mais qu'est-ce que tu nous prêches? C'est le New Age.
Oh oui, c'est le New Age.
Arrêtez tout de suite de m'écouter, je suis en train de prêcher le New Age. Arrêtez, pas aller écouter d'autres. Il y en a tellement qui sont tellement plus intéressants que moi, qui vous prêchent sur... Jésus sur la mer calmée, Zachée qui descend de l'arbre. C'est Zachée, hein? C'est pour Zachée, Bartimée.
Il y en a d'autres qui sont
descendus de l'arbre.
Le singe aussi est descendu de l'arbre.
Oui, c'est vrai. Il est en train de dire montez là maintenant. Mettez vos émotions en action avant que le miracle arrive. Ressentez la joie que vous aurez une fois que vous aurez reçu la chose que vous avez demandé. C'est ça que Jésus nous dit de faire. Quand vous croyez que vous l'avez reçu, ben, attendez. Et quand vous rentrez chez un concessionnaire Jaguar, et puis vous vous dites, oh, c'est impossible, je ne pourrai jamais avoir une bagnole comme ça, c'est pas possible. Ben, sortez, vous êtes en train de perdre votre temps. Mais par contre, si vous dites, Dieu a créé des belles choses, c'est aussi pour les enfants de Dieu, c'est pas que pour les gens qui trompent leurs femmes, qui sont méchants, et qui volent, et qui...
hein, qui sont... Non, c'est aussi pour les enfants de Dieu. Monsieur, je voudrais essayer la Jaguar. Puis vous vous asseyez dedans, vous ressentez le plaisir de poser votre derrière sur un cuir Connolly, merveilleux. Puis vous touchez le volant, l'impression que ça fait waouh, c'est autre chose qu'une deux chevaux. C'est fantastique et tout. Faites marcher vos émotions, puis vous rentrez chez vous, puis vous priez et tout. Un jour vous allez la voir. Moi, c'est comme ça que j'ai eu mon château. C'est comme ça qu'on a eu, non ? C'est comme ça qu'on a tout. Le bien comme le pas bien. Il faut faire ça dans l'ordre. C'est pourquoi j'insiste tellement sur le silence. Il faut se calmer, calmer vos sens, calmer vos muscles, et puis cultiver le repos, entrer dans l'équilibre. Ne soyez pas des excités, des énervés. Vous savez, par exemple, je parle beaucoup des Mormons en ce moment. Mais les Mormons, ils prophétisent. Mais jamais vous allez voir un Mormon dans l'église. Jamais. Mais combien de fois j'ai vu ça? Ou alors il se roule par terre. Mais c'est quoi ça? Vous imaginez Jésus faire ça? Allez. Bon, si le Seigneur me parle comme ça, j'écoute pas. Non, c'est pas mon Jésus. Je veux pas de ça. Eux, c'est dans l'ordre, la beauté, le calme, magnifique. Et ça s'accomplit. Et puis c'est pas banal, c'est pas mon petit troupeau, dans le dernier à gauche, ni à droite. Lorsque vous serez entré en possession de l'équilibre et du pouvoir, alors vous serez prêt à recevoir les informations, les inspirations ou la sagesse nécessaire au développement de votre but. C'est ça qu'il faut que le chrétien comprenne, vous voyez. On ne s'improvise pas dans la spiritualité. On ne s'improvise pas, la spiritualité se cultive, elle se forge. Sinon, c'est du n'importe quoi, et si c'est à base de n'importe quel abruti, méchant, jaloux, mesquin, profiteur, pourrait avoir accès à ce pouvoir magnifique, et ça deviendrait très dangereux. Ça serait très dangereux. Dieu n'est pas comme ça, Dieu est un Dieu d'ordre. Et heureusement, alors fuyons le désordre. Il y a un prix à payer, on n'entre pas avec des gros sabots, là où les anges osent à peine voler. Il faut y aller avec infiniment d'humilité et de respect et d'humilité. Il nous faut de la discipline et les épreuves servent à ça. Les épreuves servent à ça, à refroidir notre intempestivité. Et c'est une bonne chose. Donc, louez Dieu pour les épreuves que vous avez. Enfermez-vous dans votre chambre secrète, comme disait nos frères allemands, et mettez-vous devant Dieu, puis écoutez le Seigneur, écoutez. D'abord, vous allez entendre plein de brouhaha, et puis ça va passer, au bout d'un moment, ça s'atténue, puis voilà, vous allez pouvoir entendre la voix de Dieu, vous parler vraiment. Je le crois de tout mon cœur. Ou alors Dieu nous trompe, mais non, Dieu ne nous trompe pas. Si vous faites tout ce que vous pouvez pour vous mettre en ordre, et eh bien, le Seigneur sera vraiment fidèle avec vous, dans la mesure de votre fidélité avec lui.